chères auditrices, chers auditeurs, que la grâce et la paix vous soient multipliées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Le chanteur Charles Aznavour a interprété de nombreuses chansons, dont une intitulée « Je me voyais déjà », extrait de quelques paroles. « À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà, en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà, adulé et riche, signant des photos aux admirateurs qui se bousculaient. Les paroles défilent jusqu'à cette conclusion. On ne m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine, mais au fond de moi, je suis sûr, au moins, que j'ai du talent. Ce complet bleu, il y a 30 ans que je le porte, et mes chansons ne font rire que moi, etc., etc. Ah, l'ambition humaine, se faire un nom. Mais cela ne date pas d'hier. Le chapitre 11 du livre de la Genèse nous relate l'épisode de la tour de Babel, dans lequel cette ambition est clairement énoncée. Je lis à partir du chapitre 10 et au verset 32. Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation, et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Chapitre 11, verset 1er. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple, et ils ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Nous notons leur détermination dans le projet. Allons, faisons des briques. Allons, bâtissons une tour. Nous notons aussi l'objectif. Faisons-nous un nom. Est-ce que on ne retrouve pas de nos jours la même détermination et le même objectif chez certains hommes? S'élever au-dessus des autres pour dominer et en imposer avec un nom. Les hommes voulaient monter jusqu'à toucher le ciel, s'élever jusqu'au trône de Dieu. Or, c'est là, comme on dit, mission impossible. L'apôtre Paul, écrivant à Timothée, dira ceci, chapitre 6 de sa première lettre et verset 16, « Le roi des rois et le seigneur des seigneurs habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir. » Voilà pourquoi Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour sauver les pécheurs, comme victime expiatoire pour nos péchés, tel que Dieu l'avait annoncé par les prophètes. Je lis simplement quelques versets du chapitre 53 du prophète Ésaïe. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Cette humiliation annoncée, cet abaissement planifié et volontaire sont soulignés par l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 2. Je lis du verset 5 au verset 11. « Ayez en vous les sentiments de Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Au pays de Shinéar, dans un lieu qui prendra le nom de Babel, les hommes ont voulu bâtir une tour, ont voulu se faire un nom. Dieu a mis un terme à leurs ambitions orgueilleuses en confondant leur langage et en les dispersant. À l'inverse, Jésus a accepté de s'abaisser en participant à la condition humaine, naissant de la Vierge Marie. Et plus encore, il a accepté d'être mis au rang des malfaiteurs. Et plus encore, c'est là ce que l'apôtre Paul souligne, quand il écrit que Jésus-Christ s'est rendu obéissant jusqu'à la mort en précisant « même jusqu'à la mort de la croix, même jusqu'à la mort de la croix ». Car, en mourant sur la croix, Jésus a pris sur lui nos péchés, et plus encore, si l'on peut dire. Il est devenu pour nous péché, lui qui n'a point connu le péché. C'est ce qui lui a arraché ce cri « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La communion éternelle qui existait entre le Père et le Fils est un instant rompue, comme si Dieu venait de détourner son regard du « entre guillemets fait péché ». On comprend mieux l'expression « c'est pourquoi aussi » que nous avons lu dans Philippiens 2, 9, avec beaucoup de joie et aussi de reconnaissance à l'égard de celui qui est devenu notre Père céleste et qui n'a pas épargné son propre Fils mais qui l'a livré pour nous tous. Je relis ce passage, Philippiens 2, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Concernant le salut et le pardon des péchés, voici ce qu'affirme la parole de Dieu, ce qui est écrit. Romains chapitre 10, verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Actes chapitre 4, verset 11 et 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Luc chapitre 24, 45 à 47. Alors Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures et il leur dit « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Concernant la prière, voici ce que Jésus a dit à ses disciples. Jean chapitre 14, versets 13 et 14. « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jean chapitre 16, verset 24. « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Nous allons faire une petite pause musicale.
les bons, sur les méchants, c'est une autre journée. Le monde est éclairé, mais ton cœur est fermé, tu voudrais te sauver. Bâtir ta vie, philosophie et rêverie. Car il n'y a de salut en aucun autre, Jésus est le seul nom qui ait été donné. Il n'y a de salut en aucun autre, Jésus est le seul nom qui ait été donné. Tu veux chanter à l'amitié, tu veux danser, crois-tu pouvoir changer le monde avec tes idées? Dieu te veut pour l'éternité, mais il n'y a qu'une vérité. Tu ne peux rien pour gagner ton ciel, car il n'y a de salut en aucun autre. Jésus est le seul nom qui ait été donné. Il n'y a de salut en aucun autre. Jésus est le seul nom.
Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Jésus, synonyme de salut et de délivrance. Après sa résurrection, avant de monter au ciel, le jour dit de l'ascension, Jésus a mandaté ses disciples comme suit. Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Et comme une suite normale dans la logique de l'obéissance et de la foi en Jésus, nous trouvons Pierre et Jean montant ensemble au temple à l'heure de la prière. Et voici qu'à la porte du temple, appelée la Belle, ils croisent un homme, boiteux de naissance, qui leur demande de l'aumône. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fait lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. D'un saut, il est debout et se met à marcher. Tous le voient marcher, sauter et louer Dieu. Et ils le reconnaissent. Ils sont dans l'étonnement et cherchent à comprendre. Alors Pierre dira, Actes chapitre 3, verset 12, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme ? » Je poursuis la lecture au verset 15. « Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. » Voilà donc une situation clairement expliquée. La guérison n'émane pas de la puissance personnelle de Pierre, voire de sa piété, aussi profonde soit-elle. Elle résulte simplement de la foi dans le nom de Jésus. Cette précision s'avère parfois nécessaire, car certains voient le nom de Jésus comme une formule magique, semblable à celle tirée d'un conte des mille et une nuits, avec Ali Baba et les 40 voleurs. La caverne ne s'ouvre qu'avec la formule « Sésame, ouvre-toi ». Dans le livre des Actes, au chapitre 19 et au verset 13, nous trouvons un épisode très instructif. Je lis. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom de Jésus en disant « Je vous conjure par le nom de Jésus que Paul prêche ». Et le résultat est catastrophique, dévastateur même, pour ces exorcistes ambulants, résultat toutefois révélateur que dans leur bouche, le nom de Jésus est une simple formule, sans une once de foi en la personne de Jésus qu'ils ne connaissent pas, ni de son autorité qu'ils ne peuvent exercer, car étrangers à la vie de Dieu. Je lis donc la suite du récit. Actes 19, 15 à 17. L'esprit malin leur répondit : Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous ? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita, de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Alléluia. Quelques remarques concernant cette action de chasser des démons. D'abord, ce n'est pas une chasse aux démons à la manière des chasseurs de primes qui, dans le Far West, pourchassaient des bandits en vue de toucher la récompense. À l'Istre, l'apôtre Paul a croisé la route d'une femme possédée par un esprit de Python qui lui permettait, d'une manière surnaturelle, de révéler des vérités inconnues. Elle a suivi Paul et ses compagnons pendant plusieurs jours en disant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Lassé, Paul interviendra. Je lis Actes chapitre 16 verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Ensuite, nous remarquons qu'aucune entité démoniaque, aussi galonnée soit-elle, ne peut résister à Jésus et à son autorité. Je lis Luc chapitre 8, versets 27 à 33. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure, non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un grand cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu Très-Haut ? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans le désert. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion, répondit-il. » car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Notons simplement que l'entité démoniaque désignée par soit l'esprit impur, soit les démons, obtempère à l'ordre de Jésus. Il y a délivrance. Enseigner qu'il peut y avoir des demi-mesures en laissant sous-entendre que certains démons non identifiés resteraient alors que d'autres seraient sortis est tromperie et altération de l'Écriture. Quand la lumière entre dans une pièce, les ténèbres disparaissent. Ou autrement dit, pas de cohabitation entre la lumière et les ténèbres. Troisième remarque, les 70 disciples que Jésus a envoyés deux à deux sont revenus heureux car, comme ils le disent dans Luc 10, 17, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Le verset 20 nous ramène à l'essentiel. Quand Jésus leur dit « Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Oui. L'important, ce n'est pas d'avoir son nom en tête d'affiche, en gros caractère, comme l'a chanté Charles Aznavour, mais bien d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie. C'est le but annoncé de l'Évangile. Donner à tout homme, par la repentance et la foi en Jésus, mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification, l'occasion de voir son nom inscrit dans le livre de vie. Et l'un des noms attribués à ceux qui croient au Fils de Dieu, enfants de Dieu, comme le souligne l'apôtre Jean dans sa première épître, chapitre 3, verset 1er. Je lis, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Alléluia. L'apôtre Paul écrit dans Romains, chapitre 8, verset 15, « Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, « Abba, Père !» L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Bien-aimé, as-tu reçu ce témoignage du Saint-Esprit ? Si oui, adore. Et si tu ne l'as pas encore reçu, c'est pour toi aujourd'hui le jour du salut. C'est maintenant le moment favorable. Invoque le nom de Jésus. Demande-lui de pardonner tes péchés en confessant que c'est pour toi aussi et à cause de toi qu'il a donné sa vie sur la croix. Amen.